Chapitre 29. Le lendemain, le mercredi 13 juillet, Dale, Lawrence, Arlen et Kevin partirent camper aussitôt après le déjeuner. La mère d'Arlen avait un peu hésité avant de lui accorder la permission, mais lorsque, selon les mots de son fils, elle avait compris que son absence lui permettrait de voir son type, elle avait cédé. Ils avaient prévu d'emmener un tas de matériel qu'ils eurent du mal à installer sur leur vélo. Et une fois arrimés, sacs de couchage, provisions, ustensiles divers, tentes et sacs à dos alourdirent tellement leur bicyclette qu'ils durent rouler en danseuse jusque chez l'oncle Henri. Il y avait bien des bois le long de la ligne de chemin de fer au nord-ouest de la ville, mais ils étaient trop près de la décharge et trop peu touffus pour qu'on puisse y camper. Les vrais bois commençaient derrière le cimetière, à 2 kilomètres à l'est de la ferme d'oncle Henri et au nord de la carrière de Billy Goat Mountain, tout près de l'endroit où, quelques 50 ans auparavant, Mink Harper avait découvert le long de Gypsy Lane les ossements de Meriwether Whittaker. La veille au soir, les enfants avaient tenu un conseil de guerre de presque 3 heures, au cours duquel ils avaient rendu compte des progrès de leurs enquêtes respectives et peaufiné leurs plans, jusqu'à ce que le « Kevin » de Madame Grumbatcher lève la séance. Le livre que Dale avait volé à M. Ashley Montaigu, un acte auquel lui-même n'arrivait pas à croire, contenait plein de phrases en langue étrangère, de descriptions de rituels incompréhensibles, d'explications complexes sur des déités et antidéités aux noms imprononçables et beaucoup d'expressions ambiguës dont l'interprétation requérait des connaissances kabbalistiques. « Ça valait vraiment le coup de risquer de te faire prendre pour ça !» avait décrété Arlen. Mais Dale était certain que quelque part dans ces pages imprimées en petits caractères, on évoquait Osiris ou la stèle de la révélation que Duane mentionnait dans ses carnets. Et il avait emporté le livre avec lui afin de le lire sous la tente. Un poids de plus à traîner. Les 4 garçons avaient pris la route non sans quelque appréhension et s'étaient retournés à chaque bruit de moteur. Mais le camion d'écarissage ne s'était pas montré. La seule agression qu'ils avaient subie, c'est la grimace d'une petite fille qui leur avait tiré la langue de l'arrière d'une vieille de Soto surchargée. Ils se reposèrent à l'ombre du patio d'oncle Henri, tandis que tante Lena leur préparait de la citronnade, et passèrent quelque temps à discuter du meilleur emplacement où monter leur tente. Tante Lena trouvait que le pâturage serait agréable, avec une jolie vue sur la rivière et les collines avoisinantes, mais les garçons tenaient à camper dans les bois.
« Où est Michael O'Rourke ?» demanda-t-elle.
« Oh, il avait quelque chose à faire en ville, à l'église ou un truc comme ça ?» mentit Jim Harlen. « Il va nous rejoindre plus tard ?»
Ils laissèrent leur bicyclette à la ferme et partirent à pied aux environs de 15 heures. À 15h30, ils avaient déjà traversé la rivière près de la grotte des contrebandiers et escaladé la clôture de barbelés limitant au sud la propriété d'oncle Henri. Les grands bois commençaient presque aussitôt. Il y faisait plus frais, bien que les feuillages ne fussent pas assez épais pour empêcher le soleil de pénétrer par endroits. Ils descendirent sur les fesses la pente abrupte du ravin au nord du cimetière, traversèrent une coupe de bois à quelques centaines de mètres de la base 3 et continuèrent vers l'est en suivant à flanc de colline un chemin pour le bétail. Chaque fois qu'ils arrivaient à une clairière, ils prenaient soin de rester sous le couvert des arbres. À intervalles réguliers, ils s'arrêtaient, posaient leur équipement, se dispersaient en éventail, comme Mike le leur avait recommandé, et attendaient quelques longues minutes en faisant le moins de bruit possible. Puis ils reprenaient leur matériel et continuaient à s'enfoncer dans les bois. À part une vache égarée lors de leur 3e halte, ils ne remarquèrent aucun signe d'une autre présence que la leur. Ils avaient fait semblant de discuter de l'endroit où planter leur tente, mais en réalité, l'emplacement avait été choisi la veille au soir. Ils creusèrent un trou pour le feu de camp et montèrent 2 petites canadiennes, l'une appartenait au père de Kevin, l'autre était un vestige du passé de M. Stewart, au bord d'un bosquet, dans une clairière située à environ 500 mètres au nord de la carrière et à 400 mètres au nord-est du cimetière. À 150 mètres à l'ouest, Gypsy Lane coupait les bois selon un axe nord-sud. La clairière se trouvait sur un terrain presque plat, limité au nord par une pente abrupte au bas de laquelle coulait un affluent de la rivière. L'herbe, déjà couleur de blé mûr, ne montait pas tout à fait aux genoux et les sauterelles y pullulaient. Les grands bois commençaient à moins de 7 mètres en direction du sud et de l'est, et à 20 mètres à l'ouest. En temps normal, ils auraient joué à Robin des Bois ou à cache-cache jusqu'à l'heure du dîner. Mais ce jour-là, ils préférèrent paresser dans le campement ou bavarder à la limite des arbres. Ils essayèrent de s'allonger sous les tentes, mais il y faisait trop chaud. Et les vieux duvets empruntés aux parents étaient moins confortables que l'herbe.
Dale feuilleta son livre volé. Le nom d'Osiris y était effectivement mentionné, mais bien que le texte fût en anglais, du moins en grande partie, pour Dale, c'était du chinois. On y parlait du dieu commandant des légions de non-morts, de prédictions et de châtiments, mais le garçon ne comprenait rien du tout à ce qu'il lisait. Le ciel entre les feuilles resta bleu. Aucun orage ne les obligea à retourner dardard chez oncle Henri. Dans leur plan, ils avaient prévu une solution pour tous les problèmes, excepté pour la pluie. En cas d'averse, la visibilité serait devenue trop mauvaise et ils auraient eu trop de mal à entendre ce qui se passait autour d'eux. La fuite aurait été la seule conduite raisonnable. Ils dînèrent tôt, dévorant d'abord toutes les friandises qu'ils avaient apportées, puis ils allumèrent un feu pour faire cuire des saucisses. Il leur fallut du temps pour trouver des branches à peu près droites sur lesquelles les enfiler, et encore plus pour en affûter les extrémités. Et chaque fois qu'Arlen entendait l'expression « petite saucisse », il pouffait de rire, jusqu'à ce que Dale finisse par dire « Arrête, sinon on va te renvoyer au jardin d'enfants ». Arlen essaya de se justifier, commença à parler de Cordycourt, puis il renonça. Il faisait encore chaud vers 19h, et Lawrence voulait descendre à la rivière piquer une tête dans l'eau. Les autres s'y opposèrent et lui rappelèrent qu'ils avaient un programme à respecter. À 19h30, Arlen voulut faire griller les marshmallows, mais les autres insistèrent pour attendre la nuit. C'était toujours ainsi qu'on faisait. Kevin était déjà prêt à se glisser dans son sac de couchage vers 20h, mais l'ombre du soir venait juste d'atteindre la clairière et il faisait encore assez clair même sous les arbres. À 20h40, le ciel s'était obscurci et on ne pouvait plus distinguer les feuilles. Les bois devinrent noirs. Le silence se fit sur la Cisse. En tendant l'oreille, les enfants purent percevoir le claquement métallique des couvercles se rabattant sur les mangeoires automatiques des ports d'oncle Henri. Mais c'était un son lointain et ténu qui s'éteignit avec les derniers rayons de lumière. Enfin, il fit tout à fait noir. Pourtant, bien que ce fût le plein été, ils eurent l'impression que la nuit était tombée d'un seul coup. Dale jeta de petites branches sur le feu, les braises montèrent dans la nuit. Les garçons se rapprochèrent l'un de l'autre, le visage éclairé par les flammes. Ils essayèrent de chanter, mais le cœur n'y était pas. Et quand Arlen suggéra de raconter des histoires de fantômes, les autres le regardèrent si méchamment qu'il se tut. Il y avait dans l'air une sorte d'attente, de vigilance. Des animaux s'éveillaient, sans doute prêts à partir dans la nuit à la recherche de viande fraîche. Les garçons enfilèrent des sweatshirts et de vieux chandails, ajoutèrent du bois au feu et se rapprochèrent presque au point de se toucher. Le feu crépitait, craquait, transformant leur visage en masque démoniaque. Bientôt, sa clarté orange fut la seule lumière de leur monde. Ce soir-là, le plus dur pour Mike, c'était de ne pas s'endormir. Il avait passé une partie de la nuit précédente dans le vieux fauteuil de la chambre de Memo, avec une bouteille d'eau bénite dans une main et un mouchoir renfermant l'hostie dans l'autre. Vers 3h du matin, quand sa mère était descendue voir Memo, elle avait grondé son fils et l'avait envoyé au lit. Mais Mike avait laissé l'hostie sur le rebord de la fenêtre avant de monter dans sa chambre. Le matin, après sa distribution de journaux, le jeune garçon était passé au presbytère. Madame McCafferty était folle d'anxiété. Les docteurs avaient décidé de transférer le malade à l'hôpital Saint-Francis de Peoria, mais quand l'ambulance était arrivée le mardi soir, le père Cavanaugh avait disparu. Tandis que Mike et les autres conféraient dans le poulailler et essayaient de déchiffrer quelques passages du mystérieux livre volé par Dale, la gouvernante, aidée de plusieurs paroissiens, avait cherché en vain le prêtre dans tout le bourg.
« Je suis prête à jurer sur mon rosaire que le pauvre était bien trop malade pour soulever la tête, à plus forte raison pour partir tout seul »,
avait-elle dit à Mike en s'essuyant les yeux à son tablier. « Il est peut-être retourné chez lui ?» avait suggéré l'enfant de cœur sans y croire un instant.
« Chez lui ? À Chicago ? Mais comment ?»
s'était écriée la gouvernante.
« La voiture du diocèse est toujours au garage et l'autobus Galesburg-Chicago ne passera pas avant demain. »
Mike avait promis de la prévenir aussitôt s'il apprenait quelque chose, puis il s'était préparé dans la sacristie à servir la messe dite par le curé d'Oak Hill. En rentrant chez lui, il avait fait jurer à sa mère de bien veiller sur Memo la nuit suivante puisque lui-même allait camper. Mais juste avant de la quitter,
Il avait tout de même aspergé d'eau bénite le sol et la fenêtre de la chambre de sa grand-mère et placé des morceaux d'hostie au coin de la moustiquaire et au pied du lit. Être obligé de la laisser seule toute une nuit était un des aspects les plus inquiétants de leur plan. Ensuite, il avait préparé son sac à dos et il était parti avant même que les autres garçons n'aient démarré. La tension du trajet jusqu'à la 6 lui avait un peu remis les idées en place, mais le manque de sommeil lui faisait bourdonner les oreilles. Et il se sentait la tête lourde. Lui n'était pas allé jusqu'à la ferme d'oncle Henri. Il avait ouvert une barrière à bétail juste derrière le cimetière et longé la clôture pour cacher son vélo dans un bosquet de sapins au-dessus du ravin. Puis, revenant sur ses pas, il avait attendu l'arrivée de ses copains, qui n'avaient fait leur apparition qu'une demi-heure plus tard. Il avait poussé un ouf de soulagement en les voyant. Il était resté dans les bois tout le temps que Dale et les autres avaient passé à la ferme d'oncle Henri. Mais avec les jumelles qu'il avait empruntées à son père, il les avait vues se gorger de citronnades pendant que lui crevait de chaud dans les buissons. Ensuite, il les avait suivis dans les bois en restant au moins à 15 mètres en arrière et en se déplaçant parallèlement à eux. C'était facile puisqu'il savait où ils allaient. Il portait un polo vert et un vieux pantalon de coton beige, discret dans cette végétation, mais il aurait préféré une vraie tenue de camouflage. Si on le repérait, tout leur plan tombait à l'eau. Il secoua de nouveau la tête pour lutter contre le sommeil. Il avait choisi son poste d'observation au sommet d'une pente abrupte, à moins de 20 mètres de l'endroit où campaient les autres. L'emplacement était parfait. Deux rochers le dissimulaient, mais un interstice lui permettait d'avoir une vue plongeante sur le camp et la clairière. Et juste derrière lui, trois gros arbres très serrés le protégeaient d'une approche à revers. En plus, à l'aide d'une branche, il avait creusé une petite tranchée pour lui et ses affaires. S'il s'y cachait, on ne pouvait absolument pas le voir d'en bas, et il avait pris la précaution supplémentaire de camoufler le site avec des branchages. Il sortit son matériel. Une bouteille d'eau et une autre d'eau bénite, celle-ci soigneusement marquée pour éviter toute confusion même dans le noir, des sandwichs, les jumelles, une hostie enveloppée dans un mouchoir et enfin le fusil à écureuil de Memo. Il comprenait maintenant pourquoi cette arme était interdite. Avec son canon de 25 cm et sa poignée revolver en noyer, cela semblait effectivement l'engin idéal pour un gangster de Chicago décidé à transformer un rival en passoire. Il ouvrit la culasse, renifla l'odeur de graisse du canon et souleva l'arme afin que les derniers rayons du jour éclairent l'intérieur. Il avait trouvé des cartouches dans la boîte, à côté du fusil, mais elles paraissaient vraiment trop vieilles. Alors, prenant son courage à deux mains, il était allé en acheter une autre boîte chez M. Meyers. « Je ne savais pas que ton père était chasseur », avait remarqué le quincailler. « Vous avez raison, il ne chasse pas, mais il en a assez de voir des corneilles tout dévorées dans le jardin. » Mike posa la boîte de cartouches neuve devant lui, en introduisit une dans la culasse, referma le fusil et regarda par le viseur les autres garçons autour du feu de camp à une vingtaine de mètres de lui. C'était beaucoup trop loin pour tirer, il le savait. Même l'arme à canon superposée de Dale ne toucherait pas grand-chose à cette distance et le fusil à canon scié serait tout à fait inefficace. Mais de plus près, les dégâts seraient terribles avec les plombs de 6 qu'il avait achetés. Les buissons, au sud de l'endroit où ses copains avaient monté leur tente, rendaient une approche silencieuse impossible et toute approche très risquée. Au nord, Mike était perché en haut de la pente derrière laquelle coulait le ruisseau. Le traverser sans bruit ne serait pas facile non plus. Cela laissait deux possibilités d'approche. Une par l'est, où les arbres s'espaçaient, une autre par l'ouest, en traversant la clairière. De la hauteur sur laquelle il se trouvait, il voyait clairement dans ces deux directions, mais la lumière déclinait. Les voix de ses amis bavardant autour du feu lui parvenaient plus étouffées. L'air était humide et Mike s'aperçut que ses mains glissaient sur la crosse. Il chercha la boîte de cartouches, en fourra deux de plus dans sa poche de chemise, d'autres dans sa poche de pantalon et rangea le reste dans son sac à dos. Puis il mit le cran de sécurité et posa l'arme sur les aiguilles de pin à côté de lui. En s'efforçant de respirer calmement, il mangea un des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture qu'il s'était préparé à la hâte avant de partir. L'odeur des saucisses cuisant dans la clairière lui avait donné faim. Ses amis allèrent se coucher peu de temps après la nuit tombée. Mike avait enfilé un sweatshirt noir et troqué son pantalon beige contre un pantalon sombre. À présent, assis dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, il guettait tout bruit suspect, le bourdonnement des insectes et le coassement des grenouilles formant le fond sonore, et tout mouvement autre que le balancement des branches. Rien à signaler.
Il regarda Lawrence et Dale s'installer près du feu dans leur petite canadienne ouverte. À la lueur vacillante des braises, il distinguait les bosses formées par leurs pieds dans les sacs de couchage. Arlène et Kevin entrèrent dans la seconde tente, à quelques mètres à gauche, un peu plus loin du feu. Ils se couchèrent tête bêche. Les chaussures d'Arlène sortaient du sac de couchage. Mike se frotta les yeux et scruta plus attentivement l'obscurité en évitant de fixer le feu. Il espérait que les quatre autres avaient bien suivi ses instructions. Mais qui a décidé que c'était moi le chef ? Le plus dur, c'était de rester éveillé. Il avait failli s'endormir plusieurs fois, mais sa tête retombant contre sa poitrine l'avait fait sursauter. Il s'installa dans une position moins confortable, près de la fissure entre les deux rochers, un bras sous lui. Ainsi, s'il s'assoupissait, le poids de son corps sur son bras le réveillerait. Malgré cette précaution, il somnolait à demi lorsqu'il se rendit compte que quelqu'un s'approchait de la clairière. En fait, deux formes venant de l'ouest se déplaçaient avec la lenteur et l'attention de chasseurs traquant du gibier en terrain boisé. Mike sentit son cœur battre si fort qu'il en eut mal à la poitrine et que la tête lui tourna. Il empoigna son fusil et retira le cran de sécurité. Ses doigts étaient humides et étrangement gourds. Les deux silhouettes étaient tout près du camp maintenant, à environ 7 mètres, et restaient immobiles, presque invisibles dans l'ombre. Seul un faible reflet trahissait leur présence. Ils tenaient quelque chose. Une arme ? La lumière des étoiles fit briller du métal, et Mike reconnut des haches. Sa respiration s'accéléra, s'arrêta, reprit. Il s'obligea à ne pas se concentrer exclusivement sur les deux hommes, c'étaient bien des hommes, grands, avec de longues jambes et vêtus de couleur sombre, et à faire attention en même temps à ce qui se passait autour de lui. Tous leurs préparatifs seraient parfaitement vains si quelqu'un s'approchait de lui par derrière. Tout semblait calme de son côté, mais il perçut un mouvement derrière les tentes. Un autre homme, au moins un, approchait aussi doucement que les deux autres, mais plus bruyamment. Il était moins grand et avait du mal à éviter de faire craquer les branches sèches sous ses pieds. Mais si Mike n'avait pas su quel côté surveiller particulièrement, il ne les aurait ni vus ni entendus. Une brise se leva, agitant les branches, et les deux silhouettes dans la clairière profitèrent du bruissement des feuilles pour faire 5 pas de plus en direction du camp. Mike secoua violemment la tête, essayant de distinguer réalité et cauchemar. Il se sentait si fatigué. Les trois hommes convergeaient sur le camp maintenant. Ils n'étaient plus très loin du feu. Mike vit briller du métal. Le troisième homme aussi était armé d'une hache, à moins que ce ne soit un fusil. Mais non, ils ne veulent pas faire de bruit. Ses mains tremblaient quand il allongea les bras par-dessus les rochers pour viser l'une des deux silhouettes.
Tire, vas-y. Mais non, il faut que je sois sûr. Ces types pourraient être des fermiers venus faire du bois. À minuit.
Il n'y croyait pas un instant, mais pourtant il ne tira pas. L'idée de prendre pour cible un être humain le faisait trembler encore davantage. Il appuya plus fort les bras sur le plat du rocher et serra les dents. Les deux premiers hommes firent silencieusement le tour du feu presque mort. Les braises n'éclairaient que des vêtements sombres et de grosses bottes. Les visages étaient cachés par les visières des casquettes rabattues sur le nez. Pas un bruit ne provenait des tentes. Mais Mike voyait toujours les bosses à l'endroit des pieds de Dale et de Lawrence, la casquette de Kev, les chaussures d'Arlène. Le troisième homme s'approcha entre les arbres et s'arrêta tout près de la tente de Kevin. Mike avait du mal à se retenir de hurler, de se lever, de tirer en l'air avec son fusil. Mais il ne bougea pas. Il fallait qu'il sache.
J'aurais dû choisir un poste d'observation plus près du camp. Me procurer une arme plus efficace. Je suis mal préparé, c'est un plan mal ficelé.
Il s'obligea à concentrer toute son attention sur les trois hommes. Deux d'entre eux se trouvaient à côté de la tente de Dale et Lawrence, l'autre près de celle de Kevin et Arlène. Pas un seul mot ne fut échangé, il semblait attendre que les enfants se réveillent et viennent se joindre à eux. Pendant un instant de vertige, Mike eut l'impression que le temps était suspendu, que tout allait rester ainsi toute la nuit. Des silhouettes muettes et immobiles, des tentes silencieuses, un feu s'éteignant lentement jusqu'à ce que règne l'obscurité totale. Soudain, les deux hommes avancèrent d'un pas, balancèrent leurs haches et les abattirent sur la tente et les sacs de couchage en dessous. Une fraction de seconde plus tard, le troisième fit tomber la sienne sur la casquette de Kev. L'attaque fut si brutale et si féroce qu'elle prit Mike totalement au dépourvu. Il ouvrit la bouche, le souffle coupé. Les deux hommes les plus proches relevèrent leurs haches et les abattirent une autre fois. Mike entendit les lames traverser la toile, les duvets et ce qui s'y trouvait, puis s'enfoncer dans la terre. Ils relevèrent leurs haches une troisième fois. Derrière eux, le petit gros en faisait autant avec des « Ah !» sauvages. Mike vit une des chaussures d'Arlène s'envoler et atterrir près du feu avec à l'intérieur un morceau de chaussette ou d'autre chose rouge. Les hommes ahanaient, grognaient et grondaient comme des bêtes. Mike releva le chien de son fusil et appuya sur la détente. L'éclair du coup de feu l'aveugla, le recul faillit lui faire lâcher son arme. Haletant, il vit les deux hommes se tourner dans sa direction. Il chercha d'autres munitions, mais elles étaient dans sa poche de chemise, sous son sweatshirt. Il s'agenouilla, trouva une autre cartouche dans sa poche de pantalon, ouvrit la culasse et essaya de retirer la douille. Elle était coincée. Puis ses ongles trouvèrent un appui sur le bord de cuivre. Il se brûla les doigts en la retirant, en enfonça une autre et referma la culasse. Un des hommes avait sauté par-dessus le feu et s'avançait dans sa direction. Le second était figé sur place, la hache levée. Le troisième gronda quelque chose et continua à s'acharner sur ce qui restait de la tente et des sacs de couchage éventrés d'Arlène et Kevin. Le premier homme se précipita vers Mike, dans un grand piétinement de bottes. L'enfant leva son fusil et tira. La déflagration fut monumentale. Mike se jeta à terre, sortit la cartouche brûlée et en introduisit une autre. Quand il se releva, l'homme avait disparu. Soit il était tombé dans les broussailles, soit il s'était enfui. Les deux autres semblaient pétrifiés dans la clarté du feu. Alors, tout ne fut plus que bruit et fureur. Des flammes sortirent du bois à moins de 10 mètres du camp. Un autre fusil rugit. Le troisième homme parut tirer en arrière par des fils invisibles. Sa hache vola en l'air, tournoya, tomba en plein dans le feu et lui-même roula dans les hautes herbes. Puis des coups de revolver prirent le relais. Un automatique de calibre 45, que Mike reconnut à son rythme de tir, 3 coups de feu, arrêt, 3 coups de feu. Un autre revolver se joignit à lui, crachant les balles aussi vite que le tireur pouvait appuyer sur la détente. Ensuite, ce fut le claquement sec du calibre 22, puis un autre fusil à plomb. Le troisième homme s'élança droit sur Mike. Celui-ci se leva, attendit que le bruit des pas fût à 6 mètres, et lui tira en plein dans le front avec le fusil de Memo. La casquette de l'homme, à moins que ce ne fût une partie de son crâne, s'envola derrière lui. La silhouette lança sa hache en direction de Mike, s'effondra en griffant et gémissant dans les broussailles et glissa dans un grand fracas de branches brisées jusqu'en bas de la pente du ravin. Un gros insecte passa alors tout près de l'oreille de Mike et il l'esquiva juste à l'instant où la hache, dans une pluie d'étincelles, frappait le rocher. Mike rechargea, leva son fusil, le fit lentement pivoter, les deux mains sur la poignée revolver, respirant par la bouche. Il avait relevé le chien et posé le doigt sur la détente. Lorsqu'il s'aperçut que la clairière était vide, à part les tentes éventrées et le feu de camp presque mort. « Il est temps de passer à la manœuvre suivante.
« Allez-y » hurla-t-il.
Il se baissa, ramassant au passage son sac à dos et courut en direction du nord-ouest entre la clairière et le bord du ravin. Il sentit ses épaules et sa tête briser les branches dans lesquelles il se heurtait. Quelque chose lui fit une longue griffure à la joue et il arriva au premier point de ralliement. Le tronc tombé à l'endroit où le sentier longeait de plus près le ravin. Il s'écarta un peu, leva son arme. Des pas se firent entendre à sa droite, il siffla une fois, la silhouette en train de courir siffla 2 fois et continua à courir. Mike lui tapa sur l'épaule. 2 autres silhouettes répondirent par 2 coups de sifflet et passèrent dans le cliquetis de leur sac à dos. Mike leur tapa sur l'épaule. Une autre forme apparut dans l'obscurité. Mike siffla, pas de réponse. Il braqua son fusil sur la forme sombre qui venait vers lui.
« C'est moi !» halta
Jim Arlène. En lui tapant sur l'épaule, Mike sentit l'écharpe soutenant le bras plâtré. Il s'accroupit derrière un gros tronc et attendit 1 minute, le fusil à écureuil en position de tir. Ce fut une très longue minute. Puis il reprit le sentier, plié en 2, le sac à dos sur l'épaule gauche et le fusil dans la main droite, en jetant des coups d'œil tout autour de lui. Il avait l'impression d'avoir fait des kilomètres alors qu'il n'avait parcouru que quelques centaines de mètres. Il y eut un coup de sifflet assourdi devant lui, à sa gauche. Il siffla 3 fois en réponse. Une main lui tapa sur l'épaule au passage et il entrevit le calibre 45 du père de Kevin. Puis il trouva le raccourci,
le tournant à peine esquissé du sentier, et s'aplatit sans se soucier des orties dans les grandes herbes. Il siffla un coup, laissa Kevin le dépasser, et ne repartit qu'après l'avoir couvert pendant 45 secondes. Enfin, il descendit à son tour dans la pente, en essayant de faire le moins de bruit possible sur la terre meuble et l'humus. Pendant un instant, il ne put retrouver l'entrée secrète dans cette masse de branches et de broussailles, puis il la reconnut et se glissa à l'intérieur de la base 3. Un éclair de lampe de poche l'éblouit brièvement, les quatre autres chuchotaient, surexcités, euphoriques et effrayés à la fois. « Chut !» siffla Mike. Il prit la petite lampe de la main de Kevin et éclaira un à un tous les visages en chuchotant à l'oreille de chacun. « Tout va bien. » Tout allait bien pour tout le monde. Ils étaient là tous les cinq et rien qu'eux. « Écartez-vous, » murmura-t-il. Ils s'écartèrent vers la circonférence du cercle, toujours aux aguets, et Kevin, avec son automatique chargée et prêt à tirer, alla se placer à gauche de l'entrée. Mike aspergea le sol et les branches à l'eau bénite. Il n'avait encore jamais vu de créature sortir des trous dans le sol, mais le jour n'était pas près de se lever. Ils écoutèrent les bruits de la nuit. Ils entendirent l'appel d'un hibou. Le cœur des criquets et des grenouilles, que les coups de feu avaient fait taire, reprit, plus faible maintenant qu'il se trouvait à mi-pente. Au loin, une automobile ou un petit camion roulait sur la 6. Après 30 minutes d'écoute silencieuse, ils se regroupèrent près de l'entrée. L'envie de bavarder était passée, mais l'un après l'autre, ils chuchotèrent tête contre tête pour qu'on ne puisse pas les entendre de l'extérieur.
Et dire que je ne pouvais pas croire qu'ils allaient le faire pour de bon. « Vous avez vu ma godasse ?»
répéta plusieurs fois Harlan.
« Coupée en deux juste à l'endroit où j'avais fourré le sweatshirt. »« Tout est en charpie, »
murmura Kevin.
« Ma casquette, tout ce que j'avais mis dans le duvet. »
Petit à petit, Mike parvint à leur tirer un rapport cohérent. Ils avaient scrupuleusement exécuté le plan mis au point la veille. Le pire moment, d'après Dale, ça avait été d'attendre dans l'obscurité en faisant griller saucisses et marshmallows, comme autour de n'importe quel feu de camp. Puis, ils s'étaient installés dans les tentes et avaient bourré leur duvet de vêtements avant de rejoindre leurs positions respectives.
« Moi, j'ai été couché sur une fourmilière !»
gémit Harlan. Sa réflexion fut accueillie par des rires étouffés et Mike ordonna le silence. Il avait prévu les positions de chacun de façon qu'ils ne risquent pas de se tirer les uns sur les autres. Mais Kevin avoua que dans l'excitation du moment, après avoir vu les inconnus hacher menu ce qu'ils croyaient être des enfants, il avait tiré en direction de Mike. Celui-ci haussa les épaules, mais effectivement, il se souvenait qu'un gros insecte était passé près de son oreille au moment où l'un des hommes avait jeté sa hache dans sa direction.
« Ok, »
conclut-il en mettant les bras sur les épaules de ses copains et en les rapprochant de lui.
« On est fixé maintenant, mais c'est loin d'être fini. On ne peut pas partir avant le jour et il y a encore des heures à attendre. Ils sont peut-être allés chercher des renforts qui ne seraient pas nécessairement humains. »
Il se tut, les laissant méditer ses paroles. Il n'avait pas l'intention de les pétrifier de terreur, il voulait juste les persuader de rester sur leur garde.
« Et je ne pense pas que ça se passera comme ça »,
ajouta-t-il, sa tête contre celle de Dale et de Kevin, comme des joueurs de rugby lors d'une mêlée.
« Je crois qu'on leur en a fait voir et qu'ils sont partis pour la nuit. Demain matin, on fouillera le campement, on récupérera ce qu'on pourra et on filera. Qui a apporté une couverture ?»
Ils en avaient prévu 5 pour la nuit dans la base 3, mais ils n'en retrouvèrent que 3. Mike sortit un autre blouson et désigna des veilleurs pour les différents quarts. Kevin avait une montre à cadran phosphorescent. Il prit le premier avec Dale et ordonna aux autres de dormir. Plus un mot. Mais lui et Dale, accroupis de chaque côté de l'entrée, parlèrent encore un petit moment à voix très basse.